Et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Alors que le modèle de développement économique imposé par les pays riches est aujourd'hui remis en cause par la mauvaise santé de la planète, la voix des peuples autochtones, l'OTAN méprisée, voire étouffée, est de plus en plus écoutée et reconnue. Mais dans de nombreux pays, ces petits peuples, gardiens de la terre de leurs ancêtres, ont du mal à se faire respecter. C'est par exemple le cas au Venezuela.
Le señor Sergio Rodríguez, que a l'air de dire eso.
En refusant de reconnaître l'occupation d'Hacienda, M. Sergio Rodríguez se fait précisément l'écho de ces préjugés qui existent encore dans le gouvernement. Ah, on ne peut pas donner de fermes à ces sauvages ? Eh bien, il ne s'agit pas de leur donner des fermes, mais de leur rendre un espace d'où ils ont été violemment déplacés. On ne peut pas donner de propriété à un Indien à l'intérieur d'un parc national, mais à un fermier si ? Eh bien, si tu regardes bien, nous sommes dans la zone du parc national, depuis que nous sommes entrés à Machic, la ville des propriétaires terriens.
Dans la Sierra de Peña, au Venezuela, à quelques kilomètres de la frontière colombienne, les Indiens veulent récupérer la terre de leurs ancêtres occupée depuis plus de 50 ans par des éleveurs de bétail. Ils ont demandé à Hugo Chavez d'indemniser les éleveurs pour qu'ils partent. Mais malgré des promesses, la situation s'enlise dans la violence. Angèle Savino, la correspondante de RFI au Venezuela, s'est rendue récemment sur place. Nous écouterons son reportage avec Yvon Lebeau, spécialiste de la question indienne en Amérique latine. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
Nous, on a toujours pensé que ce qui nous arrive, c'était des caprices de la nature. C'était peut-être Dieu qui ne nous donnait pas assez d'eau ou bien trop d'eau pour nous punir. Mais on s'est rendu compte maintenant que ce qui nous arrive n'est pas tout à fait ça. C'est le fait d'autres hommes.
Mais tout de suite, on fait le tour de l'actualité environnementale avec vous, Patrick Farbias. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît depuis longtemps comme acteur du Parti écologique des Verts, mais aujourd'hui, vous avez lancé avec de nombreux signataires l'appel des éco-syndicalistes, parce que vous dites dans cet appel, la globalité de la crise nous oblige à repenser la question syndicale.
Absolument, parce que la violence d'une crise qui est globale, c'est-à-dire financière, économique, au niveau industriel, écologique, climatique, fait qu'on n'est pas dans la situation de 1929 et que l'issue à la crise ne se fera pas de la même manière. Elle devra comporter une composante écologique décisive. C'est pour ça qu'on n'a pas inventé un néologisme pour s'amuser, l'éco-syndicalisme, mais pour croiser les points de vue politiques et syndicaux sur des questions qui sont essentielles à la fois pour le monde du travail et pour l'écologie politique.
Vous nous en reparlerez tout à l'heure. On va d'abord donc décortiquer l'actualité. Et pour commencer, il y a les 4e journées européennes du développement organisées à Stockholm, en Suède, par la Commission européenne. C'est un forum qui réunit depuis hier et jusqu'à dimanche plus de 4000 personnes venues de 125 pays. Cette édition est marquée par la question des changements climatiques. Et oui, à 6 semaines de la conférence de Copenhague, les pays en voie de développement réclament le soutien financier des pays riches. Daniel Valot.
Le cri d'alarme est lancé par les pays les plus démunis de la planète. Pour certains d'entre eux, les conséquences du changement climatique se font déjà sentir. Hier à Stockholm, c'est un prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, qui a fait part de son inquiétude.
Moi je viens du Bangladesh. Nous sommes en première ligne face au réchauffement. Le niveau de la mer monte et le Bangladesh est un pays plat. Si nous perdons des terres, si l'eau de mer pénètre à l'intérieur, c'est notre système d'irrigation et notre agriculture qui sont menacés. Alors imaginez ce qui va arriver. Des millions de personnes vont devenir des réfugiés climatiques et cela dans le monde entier.
Face aux défis climatiques, les pays en voie de développement manquent cruellement de moyens pour s'adapter au réchauffement. Ils auront besoin de l'aide financière des pays riches, à commencer par ceux de l'Union européenne. Romain Philippe travaille à Concorde, une confédération des ONG européennes de développement.
On estime qu'il faut 100 milliards d'euros par an pour aider ces pays à s'adapter au changement climatique. C'est l'équivalent de l'aide publique au développement. Donc Concorde demande à ce que l'Union européenne prenne des engagements en termes de financement. Il y a des solutions qui permettraient de lever des fonds, par exemple en taxant les droits d'émission des industries les plus polluantes en Europe.
100 milliards d'euros par an, la facture du réchauffement passe mal auprès de certains pays développés. Pour parvenir à un accord à Copenhague, le rôle joué par l'Union européenne pourrait être décisif. C'est l'opinion de Rajendra Pachauri, prix Nobel de la paix, est président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Je pense qu'ils doivent continuer à montrer l'exemple pour convaincre les autres pays développés d'agir à leur tour. Les Européens doivent aussi s'engager sur des niveaux de financement suffisants pour aider les pays en voie de développement. Je crois personnellement que l'enjeu du réchauffement a été suffisamment compris par les scientifiques, par l'opinion publique et aussi par les dirigeants politiques. Donc je suis assez optimiste. Je pense qu'il y aura un accord à Copenhague.
Rajendra Pachauri, optimiste malgré tout sur les négociations climatiques. Il reste 6 semaines à la communauté internationale pour parvenir à un accord.
Patrick Farbiaz, est-ce que vous partagez cet optimisme de Rajendra Pachauri ?
Pas vraiment. Je suis très inquiet, et les Verts également, et toutes les ONG, sur ce qui est en train de se préparer, parce que visiblement, dans les pays riches, ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour payer ce que moi j'appellerais une dette climatique. Il y a une dette climatique comme il y a une dette écologique, et cette dette n'est pas payée par les pays riches qui ont trouvé un substitut avec le marché des droits à polluer pour se faire une bonne conscience, mais pas régler le problème au fond. Et c'est ça qui est grave, parce que, par exemple, il y a un rapport qui vient de dire que 22 villes du sud, du tiers-monde, sont aujourd'hui menacées par les inondations dans quelques dizaines d'années. C'est-à-dire des dizaines de millions de réfugiés climatiques. Je crois que l'Oasis, enfin, l'association des pays insulaires, a dénoncé ce qui est en train de se préparer.
On a vu ce conseil de ministre des Maldives sur l'eau.
Exactement, et donc il y a une sorte de grand silence sur ces questions. On parle beaucoup du climat, on parle beaucoup des plans climat territoriaux, etc. Mais le rapport entre le sud et le nord et entre la transformation de l'économie au niveau mondial, ça, on en parle un peu moins. Voilà.
Et oui, toutes ces sonneries, parce que demain, si vous avez envie de vous mobiliser pour faire pression justement sur les dirigeants politiques, voilà, flash mob, parce que c'est le moment. Il y a une action organisée dans votre ville, certainement, puisque le mouvement 350.org prévoit plus de 3000 événements à travers la planète. C'est un mouvement créé, vous voyez, on l'entend, hein, c'est insistant, hein. C'est un mouvement qui a été créé par un militant écologiste américain qui revendique plus de 220 000 membres répartis dans 170 pays. Bill McKibben, le fondateur, reconnaît d'ailleurs que cette mobilisation a dépassé ses rêves les plus fous. Patrick Farbiaz, on se demande finalement si le changement climatique pourrait susciter le premier mouvement de mobilisation citoyenne mondiale.
C'est quand même pas le premier mouvement. Je me rappelle que sur la guerre en Irak, il y avait eu pas mal de manifestations, etc. Je crois qu'il y a une prise de conscience, surtout dans les pays d'ailleurs occidentaux, faut le dire, de l'impact du climat. Et donc il y a effectivement une mobilisation citoyenne. Mais rappelons-nous, c'est très très difficile. Depuis 3-4 ans, il y a une coordination qui, en France, fait ce type d'action chaque année avant la réunion des pays sur le climat. Et c'est très très difficile de mobiliser massivement les gens sur cette question, parce que l'objectif n'est pas extrêmement clair. Donc il faut que les militants environnementaux continuent à expliquer tous les jours quels sont les enjeux pour les gens, concrètement, dans leur vie quotidienne, qu'est-ce qui va changer à cause du réchauffement climatique. Et c'est pour ça que la flash mob, c'est une bonne chose.
Yo.
Yeah.
Amuna.
C'est pas du vent.
Normally MC, yes?
MC, yeah.
Bomb King. Delay with the beat.
Yeah.
Yo, I wonder if I'm a snap word, I know. Rapping on the mic, oh, true believer. We're planting the seed of the future leader. We speak the truth and you can't deceive us. I ain't turning no other fucking sheep like Jesus. The overeducated underachiever. Don't be confused by my easy demeanor. It's been a long time but I never lost faith. I feel the sunshine after the rain. Coming down on my face. Come and warm me up. I wanna feel the love. Coming down on my back. I always knew in my heart that there was something above. And it really don't matter if you call it God. The only thing that matters is you call yourself. Cause I'm not in a position to preach, but it's clear. People need something to do with the fear. Cause doubting ourselves and not trusting fuck. We fall into the trap of the man and get stuck. We're filling up our homes with waste and greed. But a soul don't come in a packet of treats. So ring them bells and put a sign up.
c'est pas du vent sur RFI. C'est le moment de se pencher sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Proches et au Moyen-Orient. Avec vous, Franck Vérabeau, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, nous allons parler agriculture et plus précisément celle qui concerne l'olivier dans les territoires palestiniens et en Israël.
L'olivier, vous le savez, dont le rameau est bien évidemment synonyme de paix, mais l'olivier, ressource essentielle surtout pour l'économie des territoires palestiniens. On compte ainsi plusieurs dizaines de millions de ces arbres en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Et l'huile qui en est tirée représente en temps normal près d'un tiers de la production agricole palestinienne. Mais deux problèmes viennent perturber justement cette production, Anne-Cécile.
C'est pas grave, Franck. Et ces problèmes n'ont rien à voir avec l'environnement.
Et non, puisque le premier concerne, et c'est un problème récurrent, les attaques menées par les colons israéliens en Cisjordanie contre les Palestiniens au moment de la récolte, c'est-à-dire en ce moment même. Cette année, la police et l'armée israélienne ont promis de se mobiliser pour éviter les incidents, mais bien évidemment, il existe plusieurs dizaines de points de récolte, et il est très difficile, et il n'est pas sûr qu'il y ait forcément une volonté politique très ferme pour que l'armée et la police soient présentes partout et en particulier autour des colonies pour justement éviter ces attaques.
Avec à ce propos, Franck, un rapport inquiétant du programme des Nations Unies pour le développement.
Alors le rapport concerne, et je voulais en finir, le second problème rencontré par l'agriculture palestinienne, problème qui est la conséquence de l'offensive, cette fois à Gaza, de l'armée israélienne, c'était l'hiver dernier. Et effectivement, un programme des Nations Unies pour le développement affirme que, au cours de cette offensive, 1700 hectares de terres agricoles ont été endommagés ou détruits. Le rapport note également que le passage des chars de l'armée israélienne pourrait rendre certaines parcelles stériles. À cela vient s'ajouter la difficulté pour les agriculteurs palestiniens d'obtenir du matériel agricole ou des engrais en raison du bouclage imposé par l'armée israélienne. On le voit, l'agriculture en territoire palestinien, évidemment, n'est pas chose facile.
Vous vouliez réagir, Patrick Farbias ?
Oui, je crois que ce qui est dit est très juste et très important. Mais je crois que l'un des obstacles principaux à la paix, aujourd'hui, entre les territoires et Israël, c'est la question de l'eau, qui est liée à la question, évidemment, de l'agriculture. Ouais. Je suppose que vous en parlez souvent, mais on ne peut pas parler de l'olivier sans parler du pillage de l'eau et finalement, l'État d'Israël qui est en train de pomper l'eau des territoires, notamment en Cisjordanie. Et donc, ça pose un véritable problème qui est maintenant un problème politique. Je crois que c'est un des vrais obstacles quand on arrive au point dur de la négociation. Évidemment, il y a Jérusalem, il y en a d'autres, etc. Mais celui-là, il est essentiel.
On continue, Franck, avec vous en Israël, où on revient là à des contingences purement environnementales.
Et ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire notre invité, puisque effectivement, l'eau est une ressource extrêmement rare en Israël. On l'a dit, Israël pompe régulièrement les ressources des Palestiniens, car Israël elle-même fait face à des contingences en matière d'eau. Le manque d'eau, d'eau non salée est effectivement une difficulté, avec effectivement peut-être une découverte importante, puisque un responsable d'un kibboutz, ces fermes collectives, a découvert que l'eau saumâtre qui avait été pompée par erreur dans un puits extrêmement profond, eh bien cette eau saumâtre sert à la culture de l'olivier, permet le développement de l'olivier. Et il y a donc effectivement beaucoup de chercheurs israéliens qui sont en train de se mobiliser car l'utilisation de l'eau saumâtre pourrait être une solution justement au manque d'eau dans cette région qui est effectivement un problème drastique. Il faut savoir qu'Israël est également un gros consommateur d'huile d'olive. Elle en consomme 15 000 tonnes et n'en produit que la moitié. Il y a donc effectivement, on le voit, agriculture, science et politique sont évidemment intrinsèquement liés dans cette région un peu compliquée.
Merci Franck Vérabeau.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Patrick Farbias, je le disais au début de cette émission, vous avez appelé donc avec de nombreux signataires, plus de 200 je crois aujourd'hui, à la création d'un réseau éco-syndical en argumentant que la défense des fins de mois et des conditions de travail, hein, qui sont finalement les thèmes récurrents de l'action syndicale, ne s'opposent pas et au contraire sont complémentaires avec la lutte contre la destruction de la planète.
Oui, mais parce que c'est vrai qu'on a trop souvent essayer d'opposer l'écologie au monde du travail en disant bah, l'écologie, c'est contre l'économie, c'est contre l'emploi, c'est contre les salaires, etc. Et je crois que à la fois la crise, mais aussi la dernière campagne des élections européennes a montré que le thème de la transformation écologique de l'économie et de la société était un thème en fait beaucoup plus populaire qu'on pouvait le penser. Et donc on a décidé avec un certain nombre de militants syndicaux qui sont en même temps des militants écologistes de créer ce réseau indépendamment de toute confédération.
Non, c'est pas un syndicat supplémentaire.
Ah, pas du tout, ça n'a rien à voir. Nous nous définissons comme finalement un réseau de militants écologistes et syndicaux. Donc ce terme de éco-syndical revient bien à ce que ça veut dire, qui veut faire avancer le débat à l'intérieur des organisations syndicales et en même temps à l'extérieur sur les questions qui sont essentielles pour nous. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui tout peut être lié à la croissance? Hein, ou est-ce que, au contraire, une décroissance soutenable serait une possibilité, y compris pour le mouvement syndical, de poser autrement les problèmes de mode de production et de consommation. Mais c'est aussi des questions très concrètes, c'est-à-dire que la santé au travail est lié profondément à la question de l'environnement.
Oui, mais on pense c'est aussi à l'amiante, nucléaire, par exemple, aux
pollutions chimiques dont les écolos quand même ont posé véritablement des axes forts au Parlement européen. Hein. La directive REACH, c'est issu d'une campagne écolo, mais aussi syndicale.
C'est une directive qui donc impose aux industriels aujourd'hui de
supprimer un certain nombre de produits polluants. Alors pas assez, hein. Nous on en voulait 30 000, il y en a je crois 10 000 à peu près, mais ça a été une grande avancée, quoi. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a aussi d'autres débats où on a des désaccords avec un certain nombre de militants syndicaux. C'est la question du nucléaire. Donc, nous, on veut poser ces problèmes très clairement, ceux de la reconversion de l'économie, ceux de la relocalisation aussi de l'économie, et là-dessus je pense qu'il peut y avoir un consensus, et celui de la redistribution des richesses. Toutes ces questions sont liées véritablement.
Et cette prise de conscience que vous soutenez donc en France existe déjà dans de nombreux pays, au Brésil, en Afrique du Sud, en Espagne aussi, aux États-Unis avec l'Alliance Blue Green.
Exactement. Alors ce qu'on s'est aperçu en préparant cet appel, vous avez qu'à cliquer d'ailleurs sur l'internet, vous les trouvez ces mouvements. Il y a une véritable réflexion internationale. Alors, d'abord, on s'est aperçu qu'il y avait une fondation internationale du travail pour le développement durable qui avait été organisée à l'initiative de grandes organisations syndicales, dont la CGT, mais les commissions ouvrières, la COSATU sud-africaine, la CUT brésilienne, etc. Mais il y a eu également ce mouvement Blue Green qui a permis, entre autres, à Obama de devenir président, parce que l'alliance des organisations environnementales, des grandes ONG et des syndicats a poussé à poser ces problèmes de la crise énergétique, du climat, etc., qui n'étaient pas posés par Bush, quoi.
Merci Patrick Farvias d'être passé dans C'est pas du vent.
Bah, vous reviendrez.
C'est pas du vent revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons des peuples autochtones avec le spécialiste Yvon Lebeau et un reportage d'Angèle Savino au Venezuela. A tout de suite.